Désormais au Mali, c'est la panique totale chez le camp occidental. Depuis la fermeture du ciel malien sur les Mirage 2000 et les Rafales et les drones de la force d'occupation française, la force d'occupation s'y attendait et le voilà qui y arrive. Ce blocus que les puissances occidentales imposent au Mali, les Maliens le leur rendent de la plus belle des manières, en les privant de l'arme la plus efficace qu'ils ont dans leur arsenal, à savoir leur capacité aérienne. Une privation qui concerne non pas seulement la France, mais encore ses alliés anglo-saxons, qui ont l'air de croire que l'Afrique leur permettrait de régler leur compte avec la Russie sur les territoires africains. On se rappelle fort bien comment le vol British Airways à destination d'Accra du 8 avril était retourné à Londres en plein vol. Et à l'époque, dans un communiqué de presse publié, l'aviation civile du Ghana indique que le vol British Airways n'a pas pu atterrir à Accra le 8 avril 2022 en raison de la restriction de l'espace aérien du Mali. Par conséquent, le vol British Airways a dû retourner à Londres. À présent, cette démonstration de force malienne contre les capacités aériennes de forces d'occupation qui a si longtemps servi contre les populations sahéliennes en général et maliennes en particulier passe à un stade supérieur avec ces radars de quatrième génération qui arrivent au Mali et qui terrorisent les Français puisqu'ils devront servir à la création d'un système de DCA national malienne qui pourrait être interconnecté avec des puissances régionales comme l'Algérie. Voici comment le RFI exprime sa crainte. Au Mali, les autorités de transition ont annoncé la réception lundi 19 avril de deux nouveaux hélicoptères de combat fournis par Moscou. À quel coût, cela n'a pas été précisé. Outre ces nouveaux hélicoptères, l'armée malienne s'est également dotée de radars de surveillance de quatrième génération. Leur modèle précis ni leur nombre n'ont été précisés non plus. D'autres radars avaient déjà été réceptionnés ces derniers mois. Et le RFI continue. Ce matériel doit, selon l'armée malienne, aider les forces armées maliennes dans leur lutte de tous les jours pour l'éradication du terrorisme. Mais de nouveaux observateurs s'interrogent. En quoi des radars peuvent-ils contribuer à la lutte antiterroriste, sachant que les groupes djihadistes opérant au Sahel ne disposent pas de moyens aériens? De quelle manière ces radars peuvent-ils contribuer à sécuriser le territoire national malien? N'est-ce pas que c'est la fin de la suprématie aérienne occidentale au Sahel qui est tracée? La semaine dernière, rappelons que les hélicos de combat maliens avaient frappé pour la première fois les contingents occidentaux de la MINUSMA à titre d'avertissement. Au Sénégal, une table ronde des hommes d'affaires russo-sénégalais s'est tenue à Dakar le 31 mars. Le président du Tataristan République de la Fédération de Russie a fait le déplacement au Sénégal à cette occasion. Une rencontre économique de très haute importance qui a largement contribué à stériliser les sanctions américaines contre Moscou, avec qui le Sénégal entretient de très bonnes relations. Alors que les médias occidentaux ont crié au scandale, eux qui criaient que le Sénégal, considéré comme un allié des occidentaux, s'est abstenu non seulement lors du vote de la première résolution de l'ONU le 2 mars exigeant l'arrêt immédiat du recours à la force de Moscou en Ukraine, puis refusé de voter contre la Russie au Conseil des droits de l'homme, mais encore avait fini par contourner les sanctions anti-Russie et aider Moscou à faire face aux sanctions occidentales. Ce désaveu cinglant anti-Occident, l'Occident va-t-il subir sans sourciller? Il y a quelques heures, la France a lancé une consigne de sécurité à ses agents et ressortissants concernant la Casamance. La Casamance va-t-elle s'embraser? Possible. Sans pour autant recommander à ses ressortissants de quitter le Sénégal, le Quai d'Orsay déconseille formellement à ses ressortissants la zone comprise entre Biguenona et la frontière gambienne, vu les opérations militaires en cours au nord de la Casamance. La même note appelle également les Français résidents ou de passage dans le pays à faire preuve de vigilance maximale en se tenant à l'écart de tout rassemblement et d'être prudent à l'occasion des déplacements. Depuis le 13 mars, l'armée avait annoncé le lancement d'une opération en Casamance dans le but de démanteler les bases de la faction rebelle du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance, MFDC, qui mène un conflit de basse intensité depuis 1982, ayant depuis lors causé plusieurs milliers de morts. Dans ce cadre, vu l'intensification des opérations de l'armée sénégalaise et les bilans des dommages matériels, mais surtout humains, qui s'établissent chaque jour, Paris a pris des dispositions sécuritaires pour ses ressortissants actuellement présents sur le territoire sénégalais. En effet, selon une note du Quai d'Orsay, il est désormais fortement déconseillé aux Français au Sénégal de circuler dans la zone comprise entre Bignona et la frontière gambienne. Ainsi, la route nationale 5 reliant Bignona à la frontière gambienne et la route nationale 4 sur le tronçon reliant Bignona à la frontière gambienne leur sont interdites d'usage. Aussi, vu le risque d'attentat qui est très élevé en ce moment, les Français résidents ou de passage à l'étranger sont appelés à faire preuve de vigilance maximale et à s'enregistrer sur le fil d'Ariane afin de recevoir les alertes concernant le pays où ils se trouvent. Moscou a lancé le 24 février dernier son opération militaire en Ukraine. Celle-ci vise, selon le président russe Vladimir Poutine, à démilitariser et dénazifier l'Ukraine ainsi qu'à secourir les républiques populaires autoproclamées du Donbass, dont les populations seraient menacées de génocide. Il est à noter que les pays occidentaux, en adoptant une politique stricte anti-russe, non seulement n'ont pas réussi à apaiser les tensions en Ukraine, mais ils ont exacerbé la tension en fournissant des armes à Kiev. Dans ce conflit entre Kiev et Moscou, quel camp doivent choisir les pays africains ? L'Afrique est-elle obligée de prendre position dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? L'Afrique doit-elle voter des sanctions contre Moscou ? Quelles leçons tirer de ce conflit qui préoccupe tant le monde ? Nous vous invitons à regarder une chronique écrite par Alain Focat et réalisée par Sébastien Faye sur ce sujet. Quel camp doit choisir l'Afrique dans la guerre en Ukraine ?
Comment peut-on décemment demander sans gêne, avec insistance aux Africains, de prendre position officiellement dans la guerre en Ukraine ? Comment peut-on leur demander de voter pour l'un ou l'autre camp lorsque l'on regarde ces images des Africains malmenés, tabassés, emprisonnés, torturés, pendant que l'on évacue les nationaux pour les mettre à l'abri de l'autre côté, dans cette guerre où ils n'y sont pour rien ? Des Africains qui vivaient dans un pays, ainsi livrés à eux-mêmes, alors que la presse internationale s'émeut à juste titre du sort des Ukrainiens. Heureusement, un nombre non négligeable aux Nations Unies, le 2 mars dernier, a préféré, une fois n'est pas coutume, l'abstention, ou a choisi de ne pas être dans la salle pour ne pas prendre position, comme l'illustre cette carte. 8 pays ont choisi de ne pas être dans la salle, tout simplement. Et 17 se sont abstenus. Un pays, l'Érythrée, a voté contre. 28 ont voté en faveur du projet de résolution proposé par les États-Unis et l'Ukraine pour condamner l'invasion de l'Ukraine sur les 54 pays africains. Une très faible majorité donc en faveur du oui. Ce qui est très loin de refléter la tendance qui a dominé dans le reste du monde, qui a massivement voté en faveur de la résolution. 141 pays sur 192 au total. Lorsque l'on regarde ces images, on est encore plus conforté dans l'idée selon laquelle il faut que nous, Africains, nous trouvions notre humanité, notre place, qu'on exige le respect de tous. Ces Africains de la diaspora, dans les pays baltes, vivent le racisme au quotidien, dans l'indifférence la plus complète. Que l'on soit en Ukraine, en Biélorussie, en Crimée ou en Russie, il faut que cela soit su et que nous sortions de cette situation où à chaque fois nous sommes les dindons de la farce internationale. Il faut que les Africains soient considérés partout comme des êtres humains à part entière. Parce que pendant ce temps, tout à fait naturellement, et on ne peut pas le leur reprocher, au contraire, en Europe, on envisage déjà avec beaucoup d'amitié et d'honnêteté l'accueil des réfugiés ukrainiens qui correspondent, je reprends les propos de quelques confrères et personnalités, au type de réfugiés que l'Europe sera prête à accueillir et intégrer plus facilement. Des populations qui collent mieux à sa civilisation.
Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels...
Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union Européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine.
On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures.
Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations.
On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit.
Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration.
This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European.
Ces personnes qui ne peuvent pas monter dans les trains pour quitter Kiev, qui ne peuvent pas rentrer en Pologne, sont des immigrés, des étudiants. Ce sont des Africains qui n'ont pas les mêmes droits que les Ukrainiens chez qui ils vivaient ou faisaient leurs études. Selon la Convention de Genève, mais aussi la Charte additionnelle des droits de l'homme de l'Union africaine, ils devraient bénéficier du même soutien, de la même protection, du même traitement que les autres réfugiés qui fuient la guerre. Mais ils n'ont malheureusement pas la bonne origine ou la bonne couleur. Et ce rejet par un pays appartenant pourtant à l'Union européenne, la Pologne, pour ne citer qu'elle, a été intégrée. Cela ne semble pas préoccuper grand monde. C'est presque un détail. D'ailleurs, dans un premier temps, aucun média, ou presque, n'était pressé de se faire l'écho de ce tri, de ce rejet. Ça faisait désordre dans le climat de solidarité, d'humanité et d'union affiché pour l'Ukraine et l'Europe. Ce que cette situation offre n'est que la manifestation en public de ce que vivent les Africains dans l'ensemble des pays baltes, j'allais dire de l'ancienne Europe de l'Est. Qu'ils soient en Ukraine, en Pologne, en Biélorussie, en Estonie, en Géorgie, en Crimée ou en Russie. C'est le même traitement. Ceci doit interpeller chaque dirigeant africain sur le sens de nos prises de position à l'international. Pendant ce temps, dans l'un et l'autre camp, on drague nos représentants pour obtenir nos voix à l'ONU. Quelle tristesse, quelle tragique comédie.
Au Burkina Faso, la Chambre des mines promet des mesures pour renforcer la sécurité des opérations minières. Au Burkina Faso, la Chambre des mines, association qui représente le secteur minier privé, indique que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité des opérations minières fragilisée par les nombreuses attaques terroristes de ces dernières années. Après la cessation des activités à la mine d'or de Taparko par le russe Nordgold en début de mois, il s'agit surtout pour le pays d'éviter une spirale de suspension selon les dires de Adama Soro, président de l'association. Suite au communiqué de suspension d'activité publié par Nordgold le samedi 9 avril, une réunion a eu lieu le jeudi 14 avril entre le chef de l'armée et la Chambre des mines pour discuter de la situation. Des stratégies seront mises en place, confirme Adama Soro à Reuters, sans pour autant donner davantage de précisions. Le Kenya et le Nigeria pourraient enregistrer une amélioration de leur production de riz en 2022-2023. Durant la campagne 2022-2023, la production rizicole est attendue en hausse au Kenya et au Nigeria. Selon le département américain de l'agriculture, le premier pays devrait voir sa récolte de riz croître de 12% à 136 000 tonnes, alors que le second pourrait enregistrer un volume de 8,7 millions de tonnes, soit une hausse de 9% d'une année sur l'autre. Dans les deux cas, les progressions attendues sont liées aux efforts déployés par les autorités afin d'améliorer l'appareil de production malgré les multiples défis. Au Kenya, la mise en service du barrage de Tiba prévue pour mai prochain devrait stimuler un peu plus la culture du riz au niveau du périmètre irrigué de la région de Mvea, principal bassin de production situé dans le centre du pays et fournissant plus de 80% de la récolte nationale. La Namibie souhaite devenir un pays producteur de pétrole en 2028. Emmanuel Mulunga, le directeur général de la société publique namibienne du pétrole, a annoncé le mercredi 20 avril que le pays vise à mettre en production ses découvertes pétrolières de Vénus et de Graff d'ici 2028. Une annonce faite dans le cadre de la conférence internationale sur l'énergie en Namibie qui doit durer 2 jours du 20 au 21 avril. L'objectif est maintenant d'évaluer ces découvertes, de proposer des options et si possible de commencer à produire du pétrole d'ici 2028, a déclaré Mulunga. En janvier et février 2022, le pays a en effet enregistré 2 découvertes significatives de pétrole dans le bloc offshore 39 et dans le bloc offshore 29-13B respectivement. Selon les premières estimations de la société Shell, la découverte dénommée Graff 1 abrite entre 250 et 300 millions de barils équivalent pétrole. L'Ouganda veut s'approvisionner en carburant auprès du Kenya. L'Ouganda souhaite s'approvisionner en carburant en provenance du Kenya voisin. C'est ce qu'a rapporté la secrétaire permanente au ministère de l'énergie ougandais Irène Batebe, qui a indiqué qu'une lettre a été adressée à cet effet aux autorités compétentes de Nairobi. Pour la partie ougandaise, l'objectif est de s'approvisionner sur une base mensuelle fixe dans le but de remédier aux pénuries de carburant qui ont engendré une hausse des prix à la pompe d'environ 19%. Dans les détails, le gouvernement ougandais veut que 110 660 mètres cubes d'essence, 110 400 mètres cubes de diesel et 12 000 mètres cubes de carburant d'aviation soient fournis par le Kenya chaque mois pour lui permettre de satisfaire sa demande sans cesse croissante.